Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale PIF, jour 5. Et donc aujourd'hui, comme prévu, on va se retrouver pour parler de deux films et on commence tout de suite par un film en compétition avec un titre, ma foi, plutôt long hein, qui nous vient de chez nos amis les Québécois avec Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, réalisé par Ariane Louis XVI.
Y a pas quelque chose que t'aimerais faire?
Hein?
Une dernière volonté?
Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il y avait tout en ami.
C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose.
Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort.
Comme tant d'autres ados avant elle, Sacha a le plus grand mal à contenter les aspirations de ses parents. En l'occurrence, cette jeune vampire refuse de tuer pour se nourrir. Sa rencontre avec un garçon suicidaire de son âge pourrait lui offrir une porte de sortie. Alors forcément, avec un titre pareil, hein, c'est un film qu'on ne peut que avoir envie de voir, je trouve, un titre personnel. Voilà, vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Bref, tout est iconique dans ce titre, vraiment. Littéralement, en fait, le film, c'est ça, hein, vraiment. C'est littéralement, littéralement ça. Voilà, c'est assez drôle et ça donne vraiment envie de voir le film. Qu'est-ce que j'en ai passé? Pensez, pardon, bah écoutez, beaucoup de bien. Beaucoup de bien, on reste dans la vibe bah, des très bons films qu'il y a en compétition cette année, où ça fait extrêmement plaisir à voir. Franchement, à part The Sacrifice Game, est-ce qu'il y a vraiment eu un mauvais film en compétition jusqu'à maintenant? En tout cas, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Voilà, je vais revérifier. Ouais, il y avait aussi Halfway Home qui était assez moyen, mais sinon, à part ces deux-là, c'est vrai qu'on avait... Que des bons films en vrai en compétition et donc bah, ce film-là franchement va totalement en fait totalement s'inscrire là-dedans et c'est typiquement le genre de film que qu'à titre personnel je vais beaucoup aimer voilà donc enfin cinéma québécois de toute façon c'est ce que j'ai fait un tweet là-dessus pour dire que le cinéma québécois avait au moins un film, une petite pépite par an. 2024, ça fait déjà deux, voilà, puisqu'il y a début 2024, en janvier 2024, il y a Les Chambres Rouges qui sort. Je ferai un épisode dessus, bien sûr, il faut aller voir Les Chambres Rouges. Et il y a aussi Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant, voilà, qui sont les deux pépites, hein, en tout cas, bref, je crois qu'il sort en mars celui-là. Mais déjà, ouais, premier trimestre 2023, on a deux pépites qui viennent du Québec, donc c'est assez appréciable. En même temps, ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est un cinéma qui est hyper riche et hyper fourni et chaque année on mange des trucs très très lourds hein. 2021 on avait Babysitter de Monia Chokri, on avait surtout un film qui était sorti en fin d'année qui avait été un coup de cœur monumental pour ma part et qui est directement lié à ce film là vous allez le voir, mais on avait Falcon Lake voilà qui était exceptionnel et 2022 qu'est-ce qu'on a eu en 2022? Ah non, 2022 c'était Falcon Lake, pardon, autant pour moi, c'était pas du tout 2021 Babysitter et Falcon Lake, c'était clairement 2022. Alors, cette année on avait Simple comme Sylvain hein, voilà donc effectivement. Effectivement, ça fait 2-3 ans que le cinéma québécois vient nous offrir une pépite par an. Et donc, pour le coup, bah voilà, c'est parfaitement, ça rentre parfaitement dedans. Quand je dis que c'est des films qui sont quand même, de toute façon, j'ai l'impression que le milieu du cinéma québécois, pardon, c'est un peu consanguin. C'est que, bah littéralement, c'est tout le temps les mêmes acteurs, tout le temps les mêmes acteurs dans les mêmes films. Voilà, il y a notamment dans ce film Patrick Yvon qui joue le prof de sport de Paul, le personnage masculin. Principal. Voilà, et on retrouve également Steve Laplante, hein, qu'on a pu voir dans les films de Monia Chokri, notamment dans Babysitter et Simple comme Sylvain, voilà, qui joue le père. Et donc, je disais que c'était lié à Falcon Lake, puisque l'actrice principale de ce film, et pour le coup, j'étais pas au courant et ça m'a fait un plaisir, mais immense, c'est Sarah Monpetit, voilà, qui donc est aussi l'actrice principale de Falcon Lake et qui est hyper douée en fait, voilà, enfin en tout cas moi j'avais découvert dans Falcon Lake et je l'avais trouvée absolument géniale et du coup elle vient vraiment confirmer ici tout l'étendue de son talent clairement voilà dans ce rôle qui bon peut être un peu style Mercredi Addams, voilà, dans le style un peu ouais. Ado réservé, voilà, qui est pas forcément à l'aise en situation sociale, voilà, ça crée des scènes très mignonnes d'ailleurs, hein, ça là-dessus. Mais on n'est pas du tout dans le même traitement que la famille Adams, hein, bien évidemment. Donc c'était la première performance que je voyais d'elle après Falcon Lake, et forcément, vu ce qu'est Falcon Lake, les attentes étaient monumentales. Hein. Encore une fois, je répète, mais vraiment pas déçu. Voilà, tout un. En fait, c'est fou à quel point elle arrive juste à dégager quelque chose, uniquement par sa présence, en fait. Voilà, là pour le coup, on a un personnage qui est plutôt discret, qui est plutôt en décalage avec ses semblables et avec ce qui l'entoure. Et pour autant, même par cette discrétion, par cette légèreté, par cette, j'ai envie de dire même douceur hein, qui se dégage de son personnage. Oh, pas douceur, non, je dirais pas douceur, mais bref, ouais, cette légèreté, en tout cas, oui, je pense. Voilà, cet effacement, hein, ça c'est sûr. Elle arrive quand même à dégager quelque chose, c'est ça qui est extrêmement fort. Voilà, puis après, il y a tout ce qui est relation avec Paul, donc le garçon suicidaire. Voilà, et bon. C'est un film pour ma part donc comme je vous dis j'ai beaucoup aimé voilà même la relation entre les deux je trouve qu'il y a des trucs extrêmement mignons qui se développent et c'est tout vraiment tout dans la douceur tout dans la tendresse même si on est sur un film bon où il y a des moments des gens qui se font bouffer tout simplement hein, voilà par les vampires enfin en tout cas tuer pour que leur sang puisse être bu mais sinon on est vraiment sur quelque chose de plutôt tendre je trouve voilà qui est franchement franchement pas mal dans cette relation. Je pense à une scène avec la chanson, alors j'ai plus du tout le nom mais ouais c'est vraiment un plan fixe où juste en gros il lui demande et toi si tu devais mourir ce serait quoi la dernière chanson que t'écoutes et du coup elle met Emotions de Brenda Lee et la scène est absolument géniale, enfin bref il y a tout un jeu de regards qui passe et tout et voilà enfin bref tout un tas de trucs qui se jouent et cette scène est géniale et je me suis dit putain si tout le film tout le reste du film est dans cette vibe là je vais vraiment mettre une note absolument exceptionnelle. Alors j'ai mis une très bonne note hein, pour le coup mais elle est pas non plus voilà j'ai mis 4 pour moi dans ma tête. Si le film restait dans cette vibe là je mettais 4,5 parce que c'est typiquement le genre de film que j'adore. Mais donc ouais, c'est là les rares limites que je mettrais au film, c'est que je trouve qu'il patine un petit peu sur sa fin. Voilà, notamment quand ils partent dans le segment sur les dernières volontés de Paul, pour le coup, je trouve que ça patine pas mal et j'ai eu un petit peu de mal vraiment à rester dedans parce que j'aimais vraiment principalement ce qui était développé avant. Donc du coup, ce segment-là m'a beaucoup moins intéressé. Puis je pense notamment à tout ce qui touche autour de justement ça, hein, de cette chose de Sacha qui ne veut pas tuer voilà qui refuse de se conformer à ce qu'on attend d'elle hein, voilà il y a vraiment une vraie métaphore enfin en vrai il y a tellement de métaphores et d'interprétations possibles hein, on peut voir ça comme déjà bien évidemment en passage à l'âge adulte hein, le fameux coming of age qui évidemment qu'il y a de ça voilà j'ai vu aussi parce que bon on met beaucoup l'accent sur tout ce qui est tu vas voir c'est la première fois faut y aller après machin donc effectivement le tout ce qui est allusion sexuelle, je trouve que il y en a pas mal et que je trouve voilà ça fonctionne pas mal comme ça aussi. Et je trouve que si on pousse même un peu plus loin, on peut même y voir une métaphore sur tout ce qui est identité de genre, dans le sens où elle veut pas du tout être un vampire et que du coup elle est en totalement désaccord avec le type de personne qu'on lui a assigné à la naissance hein, si je puis dire comme ça. Donc on peut totalement voir une réflexion sur ça, je sais pas si ça a été poussé aussi loin moi je l'ai relié par exemple à une pièce de théâtre qui s'appelle La Tendresse où à un moment il y a un monologue en fait d'un homme qui dit, qui fait un speech et monologue auquel je me suis beaucoup rattaché, c'est pour ça que ça a aussi beaucoup résonné devant le film, mais dans lequel il dit que même s'il se sent homme, en fait, il n'a pas envie d'accepter l'héritage du groupe social que sont les hommes, parce que l'héritage est extrêmement dur, parce que bon, il y a eu toutes les choses horribles qu'ont fait les hommes, voilà, puis bref, le fait qu'on vit dans un système patriarcal et bref, que voilà, bon, tout ce propos-là sur les hommes, et en fait, d'avoir l'impression d'être en décalage mais pour autant d'en faire partie quand même et j'ai l'impression que il y a un peu de ça aussi dans ce film dans le sens où elle est un peu quand même dedans parce que elle se nourrit de sang etc machin mais c'est un peu malgré elle voilà dans le fond si elle avait pu être humaine voilà à plusieurs moments on voit que il y a ce moment où elle est à deux doigts de manger de la poutine voilà d'ailleurs c'est au Québec et bon bref je sais pas si c'était fait exprès pour rigoler ou si je sais pas là du tout la vision qu'ils ont de la poutine au Québec. Donc je sais pas du tout. Donc oui, on sent bien qu'il y a vraiment une partie d'elle qui a absolument pas envie d'être là, qui ne veut pas être un vampire. Qui veut pas être un vampire. Et pour moi, ça m'a vraiment rappelé la tendresse sur ce point de vue-là. Alors peut-être que je vais un peu loin dans mon analyse, hein, que je relis une pièce que j'ai beaucoup aimée avec un passage qui m'a beaucoup marqué à quelque chose qui n'a pas du tout lieu d'être. Mais en tout cas, moi, c'est un truc que je pense que c'est pas totalement débile, de le relier à ça. Et du coup, il y a un vrai humour qui se dégage du film, hein. Il y a vraiment des situations comme je vous l'ai dit c'est hyper hyper léger, hyper doux je trouve comme traitement, alors que c'est des sujets, des choses qui se passent qui, voilà, le sont pas forcément. Et donc, du coup, ouais, ça crée un certain décalage. En plus, pour moi, les Québécois, c'est trop bizarre à dire, hein, mais j'adore les Québécois, et vraiment, surtout leur accent, j'adore l'accent québécois. Et du coup, ouais, je trouve qu'il y a un truc, il est heureux, je trouve, l'accent québécois. Vous entendez un accent québécois, vous êtes heureux instantanément. Et du coup, il y a tout ça aussi, voilà, donc bref. Il y a toute cette partie un petit peu humoristique. D'ailleurs, sur le québécois, ce qui est très intéressant, c'est que le PIF l'a passé sans sous-titres français. Il y avait des sous-titres anglais, mais pas français. Et je trouve que c'est une initiative qui devrait être prise par tous les cinémas, distributeurs et tout machin. Je crois que c'est Cyril son nom, hein, le monsieur qui présente toutes les séances et qui globalement fait le PIF, hein, clairement, entre autres, hein, qui doit diriger le PIF, a dit, je trouve ça hyper insultant à chaque fois que les gens passent des films québécois avec des sous-titres français. Et pour le coup, je suis entièrement d'accord. Et là, il y avait des expressions évidemment qu'on peut pas forcément comprendre parce que on n'a pas forcément les refs et la culture là-bas. Mais pour le coup, je trouve ça très bien que les films québécois ne soient pas sous-titrés, parce que c'est un peu insultant, effectivement. Mais donc, non, qu'est-ce que j'aurais à rajouter ? Oui, que ça m'a fait penser à des petits moments à Grave, hein, voilà, puisque, quand même, c'est quand même un peu différent, mais c'est des personnages qui donc sont attirés par quelque chose qui, voilà, ils ont envie de repousser, mais en fait c'est plus fort qu'eux, et en plus c'est la même chose, hein, c'est clairement le sang et les humains, donc ça m'a un petit peu fait penser à Grave, mais le traitement est pas du tout pareil, l'esthétique non plus, hein, mais l'esthétique de ce film est absolument géniale et franchement magnifique. Je pense à cette scène dans le club de bowling qui, je la trouve super belle, et la scène dont je vous ai parlé, hein, avec le tourne-disque Emotions, qui est géniale aussi esthétiquement. Et donc oui, que dire de plus. Plus, écoutez, c'est un très bon film, hein, qui vient prendre les codes des films de vampires pour les mettre à sa sauce et y ajouter vraiment de la modernité, et qui pour le coup est absolument, absolument génial. Franchement, que demander de plus ? Que demander de plus, sincèrement, si ce n'est des films comme ça, c'est un premier film en plus. Donc ça affiche un niveau très très impressionnant. Et donc la réalisatrice à suivre pour les prochaines années. Je vous l'ai dit, le film un distributeur, hein, j'ai pas exactement la date de sortie, si je la trouve je la mets en description, donc n'hésitez pas à regarder, mais franchement allez voir ce film parce que ça faisait partie des très 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 bons trucs de la compétition. Allez, on quitte la compétition et on va voir donc le deuxième film de cette journée, qui était When Evil Lurks de Damien Runia.
Los tiempos de la fe se terminan rápido.
Deux frères, Pedro et Jaime, entrent dans une bicoque de leur village et y découvrent le corps atrocement déformé d'un homme à l'agonie. La fratrie prend sur elle de mettre fin à ses souffrances et le mal se répand dans toute la population avoisinante. Alors c'est un film qui, j'en avais pas mal entendu parler, hein, parce que ça revenait beaucoup dans la discussion depuis le début du PIF, hein, voilà, c'était quelque chose qui était très 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 attendu, qui apparemment tâchait bien comme il fallait et qui était un petit peu crade, apparemment c'était une séance dont on allait se souvenir. Effectivement, nous a présenté ça comme le feel bad movie, hein, voilà, la position du feel good. Effectivement, c'est pas hyper joyeux, hein, voilà, c'est un film qui il envoie très clairement. Bon, on va y revenir. J'en reparlerai, mais je trouve qu'il y a la meilleure mort de tout le festival dans ce film, voilà, qui la mort est géniale. Bref, on a un film qui, alors je trouve, hein, c'est hyper paradoxal, parce que c'est un film qui a trop de dialogue et qui est trop explicatif. Je pense que toutes les personnes qui ont vu le film, même si on avait plus ou moins tous un avis différent, on était tous d'accord sur ça, sur le fait que ça parle beaucoup trop et le fait que ça explique beaucoup trop les choses. Enfin, vraiment, il y a énormément, énormément de dialogues, dont certains qui servent pas à grand chose, pour expliquer les choses. Et ce qui est assez paradoxal, je trouve, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup trop de dialogues pour expliquer les choses, la mise en place, pour le coup, est un peu ratée à mon sens, parce que je trouve que j'ai mis du temps avant de vraiment rentrer dans le film et de comprendre les enjeux. C'est-à-dire que effectivement, ils entendent des coups de feu, ils tombent sur un mec découpé dans les bois, ils arrivent dans cette bicoque là, il tombe sur le gars qui est purulent de partout avec énormément de boss et machin. Enfin, le truc vraiment dégueulasse d'ailleurs, bah, franchement, gros GG aux effets spéciaux parce que bah, le mec est vraiment bah, horrible quoi. Et ouais, on me dit qu'en fait il est possédé, que machin, et là ça part dans un délire où on se demande mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, qu'est-ce qu'on fait là. Voilà, et c'était, ouais, c'était extrêmement bizarre. Mais donc en fait, le film après démarre, hein, clairement. Voilà, il y a bon, toute cette introduction, et ensuite il y a une séquence qui se déroule dans une banlieue pavillonnaire, et où en fait, en termes de d'événements et de gore, et de, enfin, de, peut-être pas de gore, hein, mais en tout cas, bref, en termes de rythme et d'intensité, je pense que c'est un petit peu le climax du film, hein, clairement, c'est là où il y a le plus de rythme et d'intensité, et où il se passe le plus de trucs. C'est là où il y a cette fameuse mise à mort extrêmement stylée. Voilà, je reparlerai après. Mais ouais, il y a bon, bah, des trucs, bref, tout, le démon qui se répand, il y a tous ces trucs avec la voiture, voilà, avec le chien, voilà, on y vient. Donc bon, c'est pas grave, je vais en parler maintenant de la mort. Mais oui, avec le chien, il y a clairement un moment où il y a le mec qui est en contact avec le démon se dessape. Le chien va renifler les vêtements, donc on comprend que bon, bah, le démon va se transmettre dans le chien. Et il y a des enfants, des petits-enfants qui font littéralement la taille du chien quand ils sont debout, qui se mettent à côté du chien. Et donc en fait, bah, on se doute que bah, bon, on sait ce qui va se passer. Mais le film a l'intelligence de faire monter la tension. Voilà, il y a plusieurs plans de dos, de face. Enfin bref, ils font des plans un peu dans tous les sens. Et voilà, ça fait monter la tension. On se demande quand est-ce que ça arrive. Et quand ça arrive, vraiment, c'est waouh. Parce que enfin bref, la mise à mort du chien qui bouffe la petite fille, franchement, c'est ça qui est fort en fait. C'est que c'est prévisible, mais pour autant, quand ça arrive, c'est quand même exceptionnel. Et donc bref, il y a cette mise à mort là, il y a des trucs, bref, de chasse, de voiture, enfin bref, avec la musique hyper forte, hyper pesante et tout. Et donc en fait, il y a un rythme quand même qui est assez soutenu, déjà sur cette séquence là en particulier, hein, même depuis le début du film, je trouve qu'il y a un rythme qui est assez soutenu. Et donc on se dit, maintenant, waouh, c'est parti, et ça va être ça, et putain, on va se manger des scènes comme ça va être trop bien quoi. Et en fait, le film est un petit peu lent, je trouve, hein, voilà, il y a justement beaucoup trop de scènes où le film va juste parler, des dialogues entre les frères, entre les machins, entre les... Et voilà, et c'est juste énormément de dialogues, et quand le film est gore, il n'y a pas de souci, c'est excellent, hein, les scènes sont superbes, et on s'amuse vraiment à les regarder, hein, bref, pour les fans de gore, en tout cas, ça fonctionne, mais ouais, on a ce truc-là de... Ce que j'ai dit en sortant de la salle, c'est que, en fait, j'ai l'impression que les festivals de genre, on a tendance à confondre très bon gore et très bon film. Voilà, c'est pas parce qu'un gore est très très bien et très très bien fait que le film va forcément être bon. Voilà, je vous parlais de À l'intérieur hier, bah typiquement c'est le cas, le gore est très très bien et pour autant, bah voilà, c'est pas un bon film. Et là c'est un peu pareil, j'ai l'impression, tout simplement parce que ouais, parce que le scénario est un petit peu raté, parce que ça blablate beaucoup, voilà, et que fondamentalement on se fait un peu chier, désolé de le dire, mais ouais, effectivement, ouais, on s'ennuie pas mal, et voilà, hein, donc heureusement que quand les scènes de gore arrivent, elles sont plus ou moins à la hauteur et que du coup on n'a pas totalement l'impression d'avoir perdu notre temps dans le film, mais pour le coup je trouve que c'est un film qui fait énormément attendre son spectateur, qui bah ouais, du coup ouais, voilà, laisse pas mal dans l'attente et même dans l'ennui en fait, parce que quand vous offrez des séquences, j'allais dire aussi exceptionnelles, peut-être pas en termes de mise en scène ou quoi, mais en termes d'intensité, de rythme, de mort, que la séquence dans le pavillon, enfin dans la résidence pavillonnaire, on s'attend à ce que la suite déboîte et la suite soit un petit peu pareille, et donc vous pouvez pas vous permettre de dire non, on va pas le faire et on va juste parler et faire des réflexions sur les démons parce que c'est plus rigolo, hop, regarde cette règle et vas-y quand on dit que 6 et oh, qu'est-ce que ça va être la 7ème, on se demande sûrement qu'elle va influer plus tard, enfin bref, je caricature encore une fois, voilà, parce que je le fais souvent dans ce podcast, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu, voilà la chose où ouais, en fait ça va beaucoup trop discuter, ça va beaucoup trop expliquer le concept et tout ce qui touche au démon, etc. Alors que fondamentalement je pense que c'est un film qui peut avoir confiance en lui, parce que c'est un film qui fonctionne pas mal, hein, vraiment, qui a même voilà, une bonne histoire à tout un truc, voilà, qui est extrêmement bien, et qui en fait aurait gagné à vraiment laisser une part de mystère et à ne pas tout sur surexpliqué. Mais par exemple, truc tout con, hein, le truc que je vous disais, il y a 7 règles sur le démon, 7, c'est énorme. Enfin, la plupart des films, il y a 3 règles, un truc comme ça, genre là, il y en a 7. C'est énorme, quoi. Du coup, bah, forcément, ouais, ça débite autour de ça, et c'est un peu dommage, hein, voilà, parce que, après, je sais pas si c'est lié à un folklore particulier en Argentine, hein, je connais pas du tout les croyances là-bas, mais ouais, il y a des trucs où bah, c'est un peu trop gros, et c'est un peu mal foutu, et c'est franchement dommage, parce que c'est un film qui a de très bonnes qualités, et franchement, qui pourrait être vraiment très 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 bon, et qui s'auto-sabote, je trouve, avec ce scénario plutôt pénible, et plutôt, voilà, longuet, et non, franchement, c'est extrêmement dommage, là où le film aurait pu être excellent, bah, il se retrouve bah, très moyen, voire bof, quoi. Ouais, non, c'est... Ouais, voilà, je petit pétard mouillé pour moi, même si, bien évidemment, le gore est au rendez-vous, et ce qui n'est pas forcément le cas pour tous. Hein. Il y a des films qui, je vous parle de Sacrifice Game, qui ne sont pas très très bien non plus, et même quand ils devraient péter, ils ne le font pas, alors que là, pour le coup, ça le fait parfaitement, et voilà, on est clairement servi en termes de gore. Mais encore une fois, avoir un bon gore, bah, ça n'aide pas à faire un bon film. Voilà, et j'ai peut-être la sensation d'être injuste, mais ça, c'est à chaque fois que je tape sur un film après l'avoir vu. Voilà, en tout cas, la plupart des films, hein, que j'ai critiqué depuis le début du pif, mal critiqué du coup, enfin critiqué en mal, mais ouais, effectivement, je pense pas qu'on puisse, c'est pas mauvais, hein, mais on peut pas affirmer que c'est un bon film pour autant, et ouais, au final ça fait un ensemble très mid alors que ça pourrait être très très bon. Allez, c'est la fin de cet épisode, voilà, comme je l'ai dit hier, un très 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 bon niveau dans la compétition. Demain, écoutez, bon, il y a plusieurs péripéties qui font que je vais travailler, donc je ne pourrai pas aller voir Xanox et la séance culte, sachant que Xanox, je le verrai mardi en rattrapage. Ensuite, je ne pense pas malheureusement assister à la séance du film Last Throw, et donc ça doit être, je pense, le seul film en compétition que je loupe, hein, puisque, comme je vous ai dit, Xanox, je le rattrape, et tout le reste, je l'ai vu, donc ça va être vraiment le seul que je n'ai pas vu. Si c'est lui qui gagne, j'aurai vraiment le seum. Bref, mais voilà, et parce qu'en fait, je sais pas si j'ai expliqué, mais j'ai une autre projection presse à cette heure-là, d'un film dont on va parler, je pense, en fin de semaine, vendredi. Voilà, et bon, vous comprendrez quand on en parlera, mais je pouvais vraiment pas louper cette projection. Donc je serai vraisemblablement juste au dernier film, hein, The Coffee Table. Donc je ne sais encore une fois absolument pas de quoi ça parle. Hein, voilà, c'est un film qui est hors compétition, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, un film espagnol après le film argentin d'aujourd'hui. On reste dans la même langue, en tout cas. Voilà, donc bah écoutez, je pense que demain il y aura un épisode à un film, et après, bien évidemment, il y aura la journée de clôture où j'ai très 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 hâte, surtout de voir le palmarès, déjà, parce que forcément, si on voit tous ces films, c'est aussi pour avoir le palmarès. Et il y a le film de clôture, There's Something in the Barn, qui a l'air vraiment vraiment super, et puis il y a les autres films de la journée, voilà, dont on parlera. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Pour ma part, je vous dis à demain, donc, pour un nouveau débrief.